les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité. Au Burundi, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et de l'état de droit, le CNARED, demande au président Pierre Nkurunziza de démissionner avant le 26 août, date de fin de son deuxième mandat. Erika Manirakiza a joint à Lille, en France, le président de cette coalition de l'opposition, Léonard Niangoma.
On va le combattre, un dictateur au combat, une dictature au combat, c'est tout. On va continuer à le combattre jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir. Mais il a intérêt de quitter maintenant le pouvoir. Sinon, s'il quitte chassé par le peuple dans la rue, et donc il perdra tout le respect qu'on doit à un ancien président.
Mais la rue s'est essoufflée.
Ben, il y a d'autres formes de lutte, ce n'est pas uniquement la rue, mais aussi la rue peut reprendre. Hein. Elle peut reprendre, attention, dans le monde entier, je ne connais pas quelque part une dictature qui a vaincu un peuple décidé, déterminé, surtout comme celui du Burundi, de lutter contre un pouvoir fasciste.
Mise en place par l'ONU d'une zone de sécurité à Kidal, au Mali, suite à des affrontements meurtriers entre les rebelles Touareg de la CMA et le Gatia, groupe d'autodéfense pro-Bamako. La MINUSMA empêche désormais tout mouvement de troupes dans une zone de 20 km autour de la ville de l'extrême nord malien. Nicolas Pinot.
Oui, la MINUSMA va faire respecter cette zone de sécurité jusqu'à nouvel ordre autour de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, où la tension reste perceptible. Pourtant, c'est à Anéfis que les combats ont été les plus meurtriers, soit à environ 120 km de Kidal, avec une dizaine de morts dans les deux groupes hier. La tension est telle qu'une réunion de réconciliation de groupes Touareg maliens prévue à partir de demain au Niger a été annulée. Le premier vol devant transporter les participants était attendu ce mardi à Niamey. Une centaine de responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad et les Gatia devaient se retrouver dans la capitale nigérienne pour sceller la paix et donner des chances de survie aux accords d'Alger. Le Gatia et la CMA faisaient partie des signataires de cet accord de paix conclu à Alger le 15 mai dernier avec le gouvernement malien et ses groupes alliés, puis le 20 juin par la rébellion du nord du Mali. La rencontre de Niamey devait être présidée par le premier ministre du Niger, Brigui Raffini, lui-même un Touareg d'Agadez, une région du nord du Niger proche du Mali.
Au Nigeria, près de 150 personnes ont péri jeudi dernier alors qu'elles fouillaient une attaque du groupe islamiste Boko Haram dans un village reculé de l'état de Yobe. D'après des habitants, la majorité des victimes sont mortes noyées tandis que d'autres ont été abattues. Eric Manirakiza.
L'attaque a été menée par des dizaines de membres de Boko Haram arrivés sur des motos et à bord d'une voiture dans le village de Kukuagari, provoquant la panique parmi ses habitants. Selon un villageois, les djihadistes ont immédiatement ouvert le feu, ce qui a poussé les habitants à la fuite. Ils ont abattu plusieurs personnes. Malheureusement, beaucoup d'habitants qui tentaient de s'échapper ont sauté dans la rivière qui débordait à cause des pluies. Beaucoup se sont noyés, a témoigné Modou Baloumi, un villageois. Les mêmes hommes armés ont délibérément tiré sur un pêcheur qui tentait de secourir les villageois qui étaient en train de se noyer, a-t-il dit. Il a ajouté que les corps de nombreuses victimes avaient été retrouvés par des habitants à plusieurs kilomètres du village. La nouvelle de cette attaque a été retardée à cause de la destruction par Boko Haram des réseaux téléphoniques dans les environs du village, situé à environ 50 km de Damaturu, capitale de l'état de Yobe, depuis le début de leur insurrection en 2009. Un responsable du gouvernement local a confirmé cette attaque en faisant état de son côté d'un bilan d'environ 50 morts.
VOA Afrique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, trois personnalités toutes poursuivies pour subornation des témoins dans le cadre de l'affaire. Le procureur contre Jean-Pierre Bemba reste en liberté provisoire. Camille Grosdidier.
Depuis trois semaines, aucun convoi en provenance du Cameroun n'est arrivé dans la capitale, ce qui a provoqué la pénurie de certains produits alimentaires sur le marché, à l'exemple de l'huile, de l'oignon, du poulet et du poisson congelé. Conséquence directe, l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Plusieurs ménages affirment ne plus manger à leur faim et interpellent les autorités de la transition. C'est depuis fin juillet que les camionneurs camerounais ont décidé de procéder à un blocus du corridor Douala-Bangui pour exiger du gouvernement camerounais des garanties garanties de sécurité et l'activation de l'action gouvernementale côté centrafricain aux fins de la mise en place d'un cadre de concertation au plus haut sommet du Cameroun et de la République centrafricaine avec l'implication de la MINUSCA afin de mettre un terme aux multiples attaques d'hommes armés sur ce corridor. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous l'avez compris, c'était un reportage de notre correspondant à Bangui sur les actions menées par les camionneurs camerounais. Et maintenant, revenons-en à la République démocratique du Congo, où trois personnalités sont donc poursuivies pour subornation des témoins dans le cadre de l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba. Camille Gros-Didier.
Selon Radio Okapi, la chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale a rendu cette décision lundi 17 août. Les avocats Aimé Kilolo Moussamba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo, ainsi que le député du MLC Fidel Babala Wandu et le témoin narcissiste Arido restent en liberté provisoire, mais sous condition. Les quatre accusés sont notamment obligés de donner un préavis à la Cour de tout voyage, depuis les lieux où ils résident actuellement, y compris la destination, leur contact et la durée du voyage. Les prévenus sont aussi tenus de se présenter à l'AE lors de leur procès, qui va débuter le 29 septembre 2015, ajoute Radio Okapi. Ils ne peuvent communiquer avec aucun témoin à charge dans cette affaire où l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, soit directement ou indirectement, sauf par le biais d'un avocat habilité à les représenter devant la Cour. Les quatre prévenus sont accusés par la CPI de subornation de témoins dans l'affaire Procureur de la CPI contre Jean-Pierre Bemba. Ils auraient, selon l'accusation, fabriqué de faux témoignages pour empêcher l'administration correcte de la justice.
Également dans l'actualité, nouveau record dans la crise des migrants en Europe, près de 21 000 arrivées en Grèce en l'espace de 7 jours. Claire Morin-Gébourg.
La crise des réfugiés sur les îles grecques continue de s'aggraver. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 20 843 migrants ont débarqué sur les côtes grecques entre le 8 et le 14 août. Un chiffre particulièrement frappant car il représente presque 50% du total des arrivées de migrants par la mer en Grèce pour toute l'année 2014. La très grande majorité de ces réfugiés viennent de Syrie, à plus de 80%, mais également d'Afghanistan et d'Irak, et devraient recevoir le statut de réfugié. Selon le HCR, le rythme des arrivées n'a fait qu'augmenter ces dernières semaines et il faut renforcer d'urgence les structures d'accueil sur les îles grecques et dans le reste du pays. L'agence onusienne recommande aux autorités grecques de mettre en place une structure unique chargée de coordonner la réponse d'urgence à cette crise et de mettre en place un mécanisme d'assistance humanitaire adéquate. La semaine dernière, la Commission européenne a affirmé que le monde affrontait la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.
Toujours dans le cahier international, nous parlons des attentats de Bangkok. Une autre explosion a été signalée près d'une station de transport en commun de la capitale thaïlandaise. Un incident qui n'a fait aucun blessé. L'attaque d'hier dans un lieu de culte hindou a, elle, fait au moins 22 morts. Les autorités sont à la recherche de suspects repérés grâce aux caméras de sécurité. Le compte-rendu de Michel Joseph.
Une grenade a été jetée mardi dans une rivière près d'un embarcadère de ferry, mais sans faire de victimes. Des gens essaient de détruire le pays, prévient Prayut Chan-o-cha, le premier ministre de la Thaïlande. Un dessein malveillant qui, d'après lui, pourrait être politiquement motivé en ciblant l'économie, notamment le tourisme. Le gouvernement va œuvrer pour trouver les responsables et les traduire en justice dès que possible, promet le premier ministre. Les autorités sont déjà sur une piste. Les images de vidéosurveillance prises peu de temps avant l'explosion dans le sanctuaire d'Erawan montrent un homme abandonnant son sac à dos sur un banc avant de s'en aller. Il faut dire que la Thaïlande a été secouée par une intense lutte pour le pouvoir qui s'est soldée par un coup d'État en 2014. Mais pour l'heure, les autorités se sont gardées de déterminer le motif de l'attentat.
Sport pour terminer en football. Phase de groupe ce soir de la Ligue des Champions en Europe. Astana du CAS affronte les Chypriotes de la l'APOEL niçoise. Bat Borisov de Bulgarie est en déplacement chez les Serbes du Partizan Belgrade. Et voilà, rendez-vous avec l'actu dans 20 minutes. Ce sera Le Monde aujourd'hui. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre attention. Je vous dis take care. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.